Bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur de vous retrouver. Vous écoutez Kaléidoscope, l'émission qui change votre regard sur le monde en ne retenant que les plus belles couleurs de l'actualité. Pendant la première partie de l'émission, pendant 30 minutes, nous allons laisser de côté la grisaille pour mettre en lumière des initiatives, des victoires, des sourires qui font bouger les lignes en France comme à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui au programme de notre mosaïque de bonnes nouvelles, une victoire historique pour le bien-être animal aux États-Unis. Et oui, des avancées solidaires et bien d'autres raisons de garder le sourire. C'est parti pour votre dose d'optimisme. Bienvenue dans l'émission Kaléidoscope sur les ondes de RDIWA.
Kaléidoscope sur RDIWA.
Aujourd'hui dans Kaléidoscope, on joue à domicile. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour trouver des raisons d'être joyeux et d'espérer. Nous parlerons donc du projet Sous les arbres, rejoignons-nous. C'est un projet donc qui a lieu dans la Drôme. Il vient tout juste de boucler sa 6e édition consécutive pour l'année 2026. C'est une initiative portée par deux acteurs majeurs du territoire, les associations BioVallée et Écologie au quotidien. L'idée est simple mais puissante. On ne plante pas dans son jardin privé, mais sur des espaces partagés. Des terrains communaux, des écoles, des bords de route, des EHPAD, des jardins partagés. L'objectif est de créer des lieux communs, nourriciers. Et n'importe qui peut à terme cueillir une pomme, une cerise en passant. Les arbres sont souvent des arbres fruitiers de variété locale et sont offerts par des pépinières. Notamment la pépinière Vovi, pépiniériste locale, avec le soutien de mécènes comme la Fondation Valrhona. Le projet a commencé en 2020 et le bilan 2026 est tout à fait positif. 10 000 arbres, c'est le cap symbolique qui a été visé et atteint au fil des années sur l'ensemble de la vallée de la Drôme. 30 projets pour 2026. Rien que pour cette session de mars 2026, plus de 500 arbres fruitiers ont été plantés dans 18 communes différentes, de Livron-Loriol jusqu'à la Motte-Chalancon. À Livron, ce sont les 21 enfants élus du conseil municipal des jeunes qui ont pris les pelles pour planter au bord du lac des Petits Robins. Ils voulaient agir concrètement pour la biodiversité de leur commune. À Heure, un collectif de voisins et d'artistes a planté des arbres le long de la promenade des arts et sur l'écosite pour créer des zones d'ombre pour les promeneurs. À Cré, des arbres ont été installés dans les cours d'école pour que les enfants voient les fruits pousser au fil des saisons. Ce projet montre que planter un arbre est l'acte de paix ultime. On le fait pour soi, mais surtout pour ceux qui viendront après nous. Dans la Drôme, on ne se contente pas des bonnes intentions de vouloir protéger la nature. On s'organise entre voisins, on creuse des trous, on prépare les récoltes de demain.
Toda menina baiana tem santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Que Deus entendeu de dar a primazia. O bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus dê. Que Deus entendeu de dar toda a magia. O bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Que Deus dê.
Que Deus deu.
Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, veio com a primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também, Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, veio com o primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho. Deus deu. Ah, ah, ah,
que Deus deu.
Oh, oh, oh,
que Deus dá.
Ah, ah, ah,
que Deus deu.
Oh, oh, oh,
que Deus dá.
Que toca cura.
Que Deus deu.
Oh, oh, oh,
que Deus dá.
Que toca cura.
Que Deus deu.
Oh, oh, oh,
que Deus dá.
Que me escolhe.
Gilberto Gil sur les ondes de RDIWA. Nous sommes toujours dans l'émission Kaléidoscope et nous allons continuer notre tour des bonnes nouvelles. Alors, on regarde souvent les États-Unis pour leurs grands débats et leurs controverses. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde un fait positif, et qu'on voit ce qui fait battre de plus près le cœur d'une grande majorité des Américains. C'est leur respect pour les animaux qui ont forgé leur histoire. Et là, on va parler des chevaux. Une victoire de la persévérance citoyenne. Après plus de 30 ans de lutte, une loi transforme une mesure budgétaire temporaire en un engagement moral, légal, définitif. C'est un signal fort envoyé par les États-Unis sur la considération du bien-être animal. Pour reparler du contexte, pendant près de 20 ans, l'abattage des chevaux sur le sol américain n'était pas strictement interdit par une loi permanente, mais simplement bloqué chaque année par un amendement au budget qui supprimait le financement des inspecteurs sanitaires nécessaires au fonctionnement des abattoirs. C'était donc une solution précaire. L'actualité récente concerne le Safe Act. Un projet de loi qui a reçu un soutien bipartisan massif et qui est au cœur des discussions du Farm Bill de 2026. Ce que cette loi change concrètement, eh bien, elle grave dans le marbre l'interdiction de l'abattage des chevaux pour la consommation humaine sur tout le territoire américain. Elle marque également la fin de l'exportation. C'est le point le plus important. Jusqu'ici, environ 20 à 25 000 chevaux américains étaient envoyés chaque année au Mexique ou au Canada pour y être abattus. Le Safe Act interdit désormais le transport et l'exportation de chevaux vivants à des fins d'abattage. Un point également sur la protection des chevaux sauvages. Cette loi ferme une faille juridique qui permettait parfois à des chevaux sauvages d'être capturés pour finir dans ces filières de la mort. C'est une bonne nouvelle à deux niveaux. Les chevaux sont considérés par une immense majorité d'Américains et surtout par les autochtones comme des animaux de compagnie ou des icônes de leur histoire nationale et non comme du bétail. Et je dirais même, pour les autochtones, ce sont des animaux sacrés. Et concernant un point de santé publique, les chevaux aux USA reçoivent souvent des médicaments qui sont toxiques pour l'homme, rendant leur viande potentiellement dangereuse. Preuve que même dans les pays les plus divisés, il reste des ponts de bienveillance. Et oui, il faut savoir s'arrêter également sur les choses positives qui existent. Quand il s'agit de protéger ceux qui n'ont pas de voix, comme les chevaux sauvages, les citoyens savent se retrouver. Et c'est cette couleur-là du kaléidoscope américain que je voulais vous partager aujourd'hui. Et la France n'est pas en reste. Une proposition de loi similaire a été déposée au Sénat fin 2025 pour modifier le statut juridique du cheval et interdire son abattage, montrant qu'il y a un mouvement mondial sur ce sujet. Pour faire suite à cette nouvelle historique sur les chevaux, voici une anecdote authentique et pleine de tendresse qui illustre parfaitement que nos amis les bêtes ont parfois un sens de l'humour ou de la détermination très humain. C'est l'histoire de Barnaby, le poney qui voulait devenir un habitué de bar. Cela s'est passé en Angleterre, mais l'histoire a fait le tour du monde pour son côté absurde et joyeux. Barnaby est un poney Shetland connu pour être une petite célébrité locale. Un soir, alors que son propriétaire discutait devant le pub du village, Barnaby a décidé qu'il en avait assez d'attendre dehors. Profitant d'une porte restée entrouverte, il est entré dans l'établissement avec un aplomb incroyable. Plutôt que de paniquer, Barnaby s'est dirigé tout droit vers le comptoir, s'est glissé entre deux clients médusés et a attendu patiemment. Ce qui a fait rire tout le monde, le poney n'était pas là pour de l'eau, mais pour des chips à la crevette, ses préférés que le barman lui offrait d'habitude sur la terrasse. Les clients, au lieu de s'offusquer, ont commencé à prendre des photos, pendant que le barman, très sérieux, lui servait son bol de chips habituel à l'intérieur. Son propriétaire a déclaré plus tard « Le plus drôle, ce n'est pas qu'il soit rentré, c'est qu'il avait l'air de trouver ça tout à fait normal d'être au bar avec les humains. »
Thank you.
Sillébois sur les ondes de Erdiwa, c'était le groupe Kassav avec ce morceau très dynamique. Dans le kaléidoscope du jour, on s'arrête sur une preuve d'humanité. La France a décidé de ne pas laisser les chiens et les chats à la frontière des conflits. Pour les familles qui fuient la guerre, une procédure simplifiée permet désormais d'arriver avec son compagnon à quatre pattes, sans les barrières administratives habituelles. Parce qu'en temps de crise, le réconfort d'un ronronnement ou d'un coup de patte est parfois plus précieux qu'un remède. Et oui, face au conflit actuel, la France a mis en place un dispositif de dérogation sanitaire exceptionnel. Normalement, pour entrer en Union européenne, un animal venant d'un pays tiers doit suivre un protocole strict. Une puce électronique, un vaccin contre la rage à jour et souvent un test sanguin complexe réalisé 3 mois à l'avance. Ce qui change avec cette mesure, les réfugiés et les expatriés qui fuient l'urgence peuvent entrer sur le territoire français avec leur chien ou leur chat, même si l'animal n'est pas en règle avec les vaccins ou l'identification. Une fois arrivés en France, les propriétaires ont simplement l'obligation de se signaler à un vétérinaire ou à la direction départementale de la protection des populations. Des associations comme Vétérinaires pour tous et la Fondation Bardot ont souvent mis en place des partenariats pour que les frais de mise en règle, les vaccins, les puces soient gratuits ou pris en charge pour ces familles en détresse. C'est une décision qui reconnaît que l'animal de compagnie n'est pas un objet ou un bagage, mais un membre de la famille à part entière. Dans le traumatisme de la guerre ou des conflits, ne pas avoir à choisir entre sa sécurité et la vie de son animal domestique est un immense soulagement psychologique. Parlons maintenant du Mexique et des dauphins. Le Mexique nous prouve qu'on peut être une grande puissance touristique tout en respectant la dignité animale. Demain, on n'ira plus au Mexique pour voir un dauphin sauter dans un cerceau, mais pour aller les observer en mer, là où ils sont vraiment chez eux. C'est le passage d'un tourisme de spectacle à un tourisme de respect de l'animal. En juin 2025, le Congrès mexicain a adopté une loi historique interdisant l'utilisation des mammifères marins, dauphins, mais aussi les orques, les otaries, dans les spectacles, les thérapies et les activités de divertissement commercial sur tout le territoire. La loi a prévu une période de transition qui se terminera précisément le 26 juin 2026. À partir de cette date, les interactions publiques pour le divertissement, comme les célèbres nages avec les dauphins, seront officiellement terminées au Mexique. La loi interdit désormais la reproduction des dauphins en captivité. Cela signifie que la génération actuelle de dauphins captifs au Mexique, environ 350 individus, sera la toute dernière. Au lieu de rester dans des bassins en béton chloré, la priorité est désormais de transférer ces 350 dauphins vers des enclos marins ou des systèmes ouverts où ils pourront vivre dans de l'eau de mer naturelle avec plus d'espace jusqu'à leur mort naturelle. Les militants appellent souvent cet amendement la loi Minshew. C'est le nom d'un dauphin qui, lors d'un spectacle au Mexique, avait heurté violemment le bord d'une piscine par épuisement. Cet accident avait été le déclic qui a poussé la société civile et les politiques à dire « plus jamais ça ». De retour sur les ondes de RDOA, on continue notre tour des bonnes nouvelles à travers le monde. Alors, on pense souvent qu'il faut toujours attendre qu'une loi passe pour que les choses bougent et que les choses changent. Mais en Suède, les citoyens ont prouvé le contraire. En votant avec leur panier de courses et en s'organisant collectivement, ils ont libéré toutes les poules du pays sans même avoir besoin du Parlement. C'est la preuve que le consommateur a un pouvoir immense. Depuis juin 2025, la Suède est devenue officiellement le premier pays au monde où plus aucune poule pondeuse n'est élevée en cage. C'est une victoire historique pour le bien-être animal. Et c'est là que l'histoire est belle, c'est que ce n'est pas une interdiction légale du gouvernement qui a forcé ce changement, mais une pression constante de la société civile. En 1988, la Suède avait voté une loi pour interdire les cages, mais l'industrie avait réussi à bloquer son application pendant des décennies. Face à l'inaction politique, l'association Project 1892, portée par des milliers de citoyens, a changé de stratégie. Ils sont allés voir directement les entreprises, les supermarchés, les restaurants. Les citoyens ont arrêté d'acheter des œufs de batterie. Sous cette pression, plus de 80 grandes entreprises ont juré de ne plus jamais vendre d'œufs de poules en cage. Résultat, le marché des cages s'est effondré de lui-même. Il y a 15 ans, 40% des poules suédoises étaient en cage. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à zéro. Cela représente plus de 2 millions de poules qui, chaque année, ne connaîtront jamais l'enfermement. Voilà de bonnes nouvelles pour nos amis les animaux. Et pour clôturer notre première partie d'émission, nous allons parler un peu de solidarité humaine. On dit souvent que notre société s'individualise, mais... écoutez plutôt l'histoire de Georgette et de son voisin. Une simple assiette partagée a suffi à recréer un pont entre deux générations qui ne se parlaient plus. Voici l'histoire de la table des voisins, ou le concept des repas partagés, qui a explosé en France en 2025 et 2026. Cela se passe dans un petit village de la Creuse, mais l'initiative a essaimé partout en France, notamment dans la Drôme. Georgette, 82 ans, vivait seule et cuisinait toujours des quantités astronomiques, par habitude. Un jour, son jeune voisin, un étudiant un peu fauché, lui a avoué qu'il ne mangeait pas toujours à sa faim. Ni une ni deux, Georgette l'a invité à sa table. Le voisin a posté une photo du repas sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Ma voisine cuisine ». En quelques semaines, l'idée est devenue virale. Aujourd'hui, via une application solidaire française, des milliers de seniors adoptent un étudiant ou un jeune travailleur pour un dîner par semaine. Le résultat, eh bien, le jeune mange équilibré et fait des économies, et la personne âgée rompt sa solitude en partageant ses recettes et ses histoires. Georgette raconte que son voisin lui a appris à faire des TikTok en échange de ses secrets pour la meilleure recette de blanquette de veau. Elle est devenue une star locale. C'est ça la magie de la solidarité, ce n'est pas forcément un grand discours, c'est parfois juste une chaise qu'on tire pour quelqu'un d'autre. Nous voilà arrivés à la deuxième partie de notre émission Kaléidoscope sur les ondes de RDIWA, l'émission qui vous fait du bien. Et après avoir voyagé dans les plaines américaines, au jardin de la Drôme, nous changeons de décor pour une rencontre inspirante. Nous allons parler de mémoire vive, de culture, de tradition et même de futur. J'ai l'immense plaisir d'accueillir la présidente de l'association Yukulim, dont le nom est tiré de la langue Kalinia et fait référence aux grosses fourmis noires qui sont utilisées lors du rituel de passage de l'adolescence à l'âge adulte. J'ai nommé Mick Manewamo qui va nous parler donc de cette association qui promeut et transmet et préserve la culture amérindienne en Guyane française. À travers des actions concrètes avec la jeunesse, son association redonne vie à une langue, à une culture et à des savoir-faire ancestraux qui auraient pu s'éteindre. Ici, on ne parle pas de passé, mais bien d'un présent vibrant. Comment les jeunes se réapproprient-ils leur identité? Comment la culture devient-elle un levier de confiance pour demain? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans cet échange exclusif. Alors bonjour Mick.
Bonjour, c'est la présidente de l'association Yukulim.
Et je voulais vous demander comment est née l'idée de créer cette association.
L'idée de la création de l'association Yukulim, en fait, remonte à la première journée des peuples autochtones Donc, c'était en 2011. À l'époque, mon père était président en fait, de son groupe, Knolo. Donc, c'est de là est parti, en fait, après l'idée de poursuivre, en fait, de créer mon propre association.
Très bien. Et je crois que l'association est située dans un village donc, qui s'appelle le village Pierre, c'est bien ça, dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane française.
Donc, l'association, donc le siège est situé, oui, comme vous l'avez bien dit, donc c'est sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, précisément donc à Village-Pierre, en Kalinia, Manempoule, voilà, qui se situe en fait entre le village Locono qui est Balaté et celui de Terre-Rouge.
Alors, comment se passent les activités de l'association? Quelles sont les activités qu'elle propose?
L'association Yukulim est une association de loi 1901. Donc, au sein de l'association, nous sommes tous bénévoles. Voilà. Et donc, cette association a pour ambition d'échanger, promouvoir la culture amérindienne à travers des activités. Des actions artistiques, culturelles. Donc, nous faisons vraiment, en fait, nous travaillons vraiment sur la transmission des savoirs et savoir-faire de la culture autochtone de Guyane.
Est-ce que, justement, c'est une action qui vise principalement les jeunes ou est-ce que tout le monde est concerné?
Donc, le but de notre association, c'est en fait, comme je vous ai dit, hein, transmettre, donc, il y a des dames qui mènent des activités au sein de l'association comme les ateliers de perlerie, ateliers de confection de tenues traditionnelles, la poterie, les langues. Il y a des jeunes aussi. Donc, les jeunes, elles, c'est surtout, elles sont, comment dire, elles font partie du groupe de danse de l'association Yukulim. Donc, tous ces ateliers, on les mène sur le village, village Pierre, on va dire, mais pendant les périodes de vacances scolaires. Et nous échangeons aussi avec la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, nous plaçons nos intervenantes au sein des écoles.
Donc, il y a une transmission aussi qui se fait au sein des écoles.
Oui, voilà. Donc, on fait en fait véhiculer, faire connaître notre culture à travers diverses activités, que ce soit la danse, les ateliers, les ateliers de langue. Voilà. Donc, nous travaillons sur vraiment la transmission. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, il y a beaucoup de, comment dire, pertes dans au niveau de notre culture.
Oui, donc c'est important en fait de mener ces actions pour préserver les traditions et notamment la langue.
Oui, la langue, en fait, moi je parlerai plus de la langue donc Kalinia et aussi de Locono. Ce sont les deux langues vraiment plus parlées sur l'ouest de la Guyane et sur le littoral. Aujourd'hui, en fait, actuellement, en tant que présidente, comment dire, je ressens une sorte de perdition de notre langue. Et ceci, en fait, m'alerte beaucoup et c'est pour ça que j'essaye de mener des ateliers en langue Kalinia. Et dernièrement, nous avons eu l'intervention de M. François Daniel, qui est un spécialiste en langue Kalinia. Il est venu et qui a intervenu pendant 2 heures et il nous a vraiment, donné les différents parcours que lui, il a fait. Et lui, de sa façon, il nous transmet en fait son savoir, quoi. Voilà, parce que les jeunes actuellement, la plupart, vraiment, certains ne parlent même plus leur langue.
Alors, est-ce qu'on a la problématique aussi dans les villages de la scolarisation peut-être des enfants en dehors des villages?
Non, en fait, sur l'Ouest, les enfants sont scolarisés hein, dans les écoles de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Quand les enfants intègrent les écoles, comment te dire, moi je parlerai au niveau des langues. Hein, en fait, les enfants sont scolarisés dans des écoles françaises. Ça, il n'y a pas de souci. Sauf que à la maison, ces enfants ne parlent pas la langue et continuent avec le français. Et c'est ça actuellement le problématique.
Oui, c'est vrai qu'on est dans un monde qui va très très vite et j'imagine également que les jeunes et les enfants ont accès aussi, on va dire, peut-être aux écrans, à des choses comme ça, qui peuvent participer à peut-être un éloignement de la culture également.
Oui, c'est ça aussi, hein. Donc voilà, moi je dirais c'est surtout cette modernisation hein, comment dire, qui prend de l'ampleur hein, au sein des villages. Voilà, donc moi, comment dire, je remarque au niveau des danseuses de mon groupe, il y a peut-être que deux qui me comprennent quand je m'exprime. La plupart, ben, il faut que je fasse la traduction en français parce qu'à la maison, ben, elles ne parlent pas leur langue et ça, c'est vraiment, pour moi, je trouve ça vraiment dommage, quoi.
Effectivement. Et du coup, comment se positionnent les aînés par rapport à tout ce qui se passe dans les villages?
Donc nous, on a des, comme on appelle des chefs coutumiers qui sont, qu'on dit en Kalinga, les yopoto. Les yopoto, c'est eux qui en fait qui gèrent les villages. Et je pense que vraiment, il faut que tous ces yopoto de les différents villages, je pense qu'il faut qu'ils fassent un travail sur ces problématiques actuelles au niveau des jeunes, au niveau de la culture, au niveau de la transmission, au niveau de toutes ces notions que nous avons. Nous, aujourd'hui, dans notre village, on a encore des aînés qui sont là. Moi, exemple, moi, je suis fait partie d'une une famille très traditionnelle, donc j'ai pu acquérir des savoirs et savoir-faire grâce à mes tantes, mes grands-parents, ma mère, voilà. Et dans d'autres familles, ben, ça n'existe pas, quoi. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment des revendications sur ce sujet.
Se apresentou, sou índio velho curandu. Põe a sua mão na terra e vem sentir o que eu sou. Se apresentou, sou índio velho curandu. Põe a sua mão na terra e vem sentir o que eu sou. Se apresentou, o sol chegou. Eu tô na força da floresta. Eu tô sentindo o nosso amor. Eu tô no meio das matas, nas asas de um beija-flor. O meu coração tocou. Se apresentou, o sol chegou. Eu tô na força da floresta. Eu tô sentindo o nosso amor. Das matas, nas asas de um beija-flor, o meu coração tocou. Abençoou, trouxe o perdão, chegou como um clarão. Meu trabalho, a minha vida, minha casa, minha família são elo de união que firma o meu coração. Anunciou, trouxe o perdão, chegou como um clarão. Meu trabalho, a minha vida, minha casa, minha família são elo de união que firma o meu coração. Se apresentou. sua mão na terra e vem sentir o que eu sou. Se apresentou, sou índio velho curador. Põe a sua mão na terra e vem sentir o que eu sou. Se apresentou, o sol chegou. Eu tô na força da floresta, eu tô sentindo nosso amor. Eu tô num brilho das matas, nas asas de um beija-flor. O meu coração tocou. Se apresentou, o sol chegou. Eu tô na força da floresta, eu tô sentindo nosso amor. Eu tô num brilho das matas, nas asas de um beija-flor. O meu coração tocou. Chego como um clarão. Meu trabalho, a minha vida, minha casa, minha família são elos de união que firma o meu coração. Abençoou, trouxe o perdão. Chego como um clarão. Meu trabalho, a minha vida, minha casa, minha família são elos de união que firma o meu coração. Apresentou, sou índio velho curador. Põe a sua mão na terra e vem sentir o que eu sou. Se apresentou, sou índio velho curador. Põe a sua mão na terra e vem sentir o que eu sou.
Chau, 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 sirim, 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 sirim. Puxari, 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 puxari.
Est-ce que les villages également sont confrontés, par exemple, à une problématique d'urbanisation autour des villages?
Nous, oui, c'est vrai qu'on a un souci à ce niveau parce qu'on voit vraiment s'installer, des résidences autour de nous. On voit des quartiers qui s'installent. Donc, on est vraiment, on va dire qu'ils empiètent sur notre territoire. Voilà. Et que des fois même, nos terres sont grignotées.
Oui, c'est vrai que c'est une problématique qui touche pas mal de peuples autochtones, hein, même en dehors de la Guyane française. Les peuples autochtones sont beaucoup touchés par la problématique du territoire. Et donc, au niveau des ateliers, alors comment ça se passe concrètement? Est-ce que, par exemple, les jeunes sont invités à un moment précis ou est-ce qu'ils savent qu'automatiquement, pendant les vacances scolaires, il va y avoir donc des ateliers pour les faire renouer avec la tradition.
Moi, en tant que présidente de l'association, j'essaye de mettre en place des ateliers pendant les vacances scolaires. Voilà, vu que je travaille, donc je ne peux pas mener les ateliers en semaine ni les mercredis après-midi. On essaye de planifier des ateliers qu'on mène sur le village Pierre. Des fois, c'est à la salle polyvalente du village ou chez moi. Et donc, on mène les activités auprès des jeunes et aussi des personnes de la ville qui viennent et qui s'intéressent à la culture, comment dire, à la culture autochtone.
Il y a donc d'autres manifestations qui peuvent être organisées par l'association en dehors des ateliers de transmission.
Oui, bien sûr. Et nous, on a mené deux fois les journées des peuples autochtones sur le village Pierre. Et on avait fait venir des groupes de danse des différents peuples. On avait mis en place des ateliers tout au long de la journée. On a eu, en fait, c'est vraiment. C'était une journée pour découvrir, comment dire, une immersion vraiment dans la culture autochtone. Donc, nous menons, oui, c'est vrai que nous menons vraiment cette journée qui est très, très importante pour nous, qui a été aussi reconnue. Et je pense que ce n'est pas que nous, mais dans chaque village, on essaye de vraiment, de, comment dire, mettre en valeur cette journée.
Merci. Donc, j'imagine effectivement qu'il y a une collaboration aussi avec les autres, on va dire, les autres tribus, les autres villages, en tout cas, de la Guyane française.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, nous, on est six peuples ici sur la Guyane française. Donc, il y a les Kalinya, les Teko, les Paikwene, les Wayanda, Wayampi et Lokono. Et donc, on essaye de vraiment, lorsqu'il y a des manifestations, comme la journée des peuples autochtones, mais on essaye de vraiment de faire venir des groupes de différents villages, des villages autochtones qui soient éloignés sur le littoral, même du Suriname. Donc on a vraiment ce partage. C'est vraiment une journée de partage. Voilà.
Wapona bo la 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 mano jo pama. Wapona bo la la la
Merci infiniment, Mick Maniwamo, pour cet échange riche. Et je voudrais vous laisser le mot de la fin, c'est-à-dire si vous aviez un message à faire passer, en tout cas pour la préservation de la culture autochtone, des traditions, de ce qui vous tient vraiment à cœur et de ce qui est important pour la survie hein, de tous ces savoir-faire, de toutes ces traditions qui sont importantes et qui nous relient à la Terre. Que pourriez-vous dire comme mot de la fin?
Donc, je dirais, en tant que présidente de l'association Yukulim, cela fait des années que je me bats. Voilà, je me bats pour la transmission de nos savoirs et savoir-faire, de notre culture et tradition. J'essaye de transmettre mes connaissances que j'ai eues de mes grands-parents, de ma mère, de mon père qui a été chaman. Et j'essaye vraiment que les jeunes, très jeunes, à travers moi, reconnaissent leur histoire, qu'ils ne perdent pas, en fait, qui ils sont, parce que la culture, la tradition, c'est ça leur identité.
Merci, ce sont des mots très forts qui vibrent très très fort sur les ondes de RDIWA en ce jour. Merci infiniment pour cet échange très riche, très puissant. Merci beaucoup et nous aurons certainement l'occasion donc de vous inviter de nouveau pour savoir un petit peu comment évoluent les choses avec votre association et sur le territoire donc de la Guyane française. Merci beaucoup, Mick, pour cet échange.
Merci, au revoir.
Morobodeo mi yoromase. Maroboku ama et masé.
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 Maroboku ama et masé. Maroboku ama et masé. Maroboku ama et masé.
Maroboku ama et masé.
Maroboku ama et masé.
Maroboshiari et masé.
Maroboshiari et masé. Maroboshiari et masé. Maroboshiari et masé.
Homie, tu connais pas ces samba boy pour le c. Maroboshiari et masé.
Maroboshiari et masé.
Maroboshi ari et masé.
Maroboshi ari et masé. Maroboshi ari et masé. Maroboshi ari et masé.
Orwan. Maroboshi ari et masé.
Maroboshi ari et masé.
Maroboshi ari et masé.
Maroboshi ari et masé. Maroboshi ari et masé. Maroboshi ari et masé.
Oh oui. Maroboshi ari et masé.
Maroboshi ari et masé.
Eh bien, nous voilà arrivés au terme de l'émission Kaléidoscope de ce jour. C'était Assouta avec vous pour une émission très riche aujourd'hui, avec un échange exceptionnel avec notre présidente d'association Youkoulim, qui se situe en Guyane française, pour la préservation des traditions des peuples autochtones. Voilà, je vous souhaite une très très belle continuation, une très belle semaine, et je vous retrouve le mois prochain pour une prochaine émission aussi intense, intéressante, mais tout à fait légère. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs.
Wants me to study at least to learn that if there is one thing I don't want to kiss pin in is this world. I'd rather live
I beg for books, I must give in. And the lad of forest, friend of nuns and fairies, virgin spirits, my soul is crying to see a multitude of landscapes praising wildly. Crushes my plans of liberty. He uses my feelings to better me. But I'm growing stronger. One day I will finally get rid of my. Father, I look at you in the eyes to feel the satisfaction of feeling nothing when you'll be crying. We will argue so hard, but my words will be so sharp that on top of your authority, I will break your heart.